Monseigneur Richen, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le processus qui vous a amené à prendre cette décision de rejoindre le diocèse de Grenoble ?
Alors, on pourrait presque dire que ce n'est pas une décision que j'ai prise dans la logique de l'appel à une mission épiscopale dans l'Église, mais c'est vrai aussi pour une mission de curé ou même des laïcs en mission ecclésiale. En réalité, on ne choisit pas sa mission, on la reçoit. Alors, évidemment, il y a quand même un contexte de liberté. Si on se sentait pas très adapté ou si ça nous angoissait trop ou si on avait un vrai problème de santé qui nous empêche de dire oui à une mission, on peut toujours refuser. Mais l'idée, c'est qu'on n'est pas prévenu, on ne postule pas. On ne manifeste pas même notre volonté de nous mettre dans le mouvement, comme on pourrait faire pour des enseignants. Mais on sait, parce que c'est la logique interne de notre vocation, qu'un jour ou l'autre, même si on est bien là où on est, l'Église peut nous appeler à une autre charge parce qu'il y a un besoin qui a surgi et elle a le sentiment qu'on peut répondre à ce besoin. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé pour moi. Donc je suis évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix. Et à un certain moment, le nonce, donc l'envoyé du pape en France, à Paris, là, m'a appelé en me disant « Le pape vous demande de devenir l'évêque de Grenoble et Vienne. Je vais vous expliquer quelle est la réalité de ce diocèse. » Et puis, en dernière analyse, il dit « Bien sûr, il me faut votre accord, votre assentiment. » Et donc, comme je n'avais pas de bonne raison de dire non, j'ai dit oui. Sachant que mes sentiments intérieurs sont partagés, il y a à la fois la reconnaissance et la joie parce que on nous adresse un signe de confiance en quelque sorte en nous demandant de porter une nouvelle responsabilité. Ça peut vouloir dire qu'on a estimé qu'on n'avait pas trop échoué sur la première qu'on nous avait confiée. Donc il y a cette joie de la confiance accordée. Et en même temps, il y a la tristesse de quitter des gens, des hommes et des femmes, des prêtres, mais aussi des laïcs, et même des non-croyants avec lesquels on a partagé sa vie pendant, pour moi, presque 8 ans. La tristesse de quitter un territoire. En plus, moi, ce territoire, c'est le lieu de ma naissance. Donc, c'est un deuxième départ, en quelque sorte, après un premier départ, mais qui n'a pas été coûteux pour moi parce que j'étais tout enfant. Voilà, mais donc il y a à la fois de la joie et de la tristesse, et bon, c'est le mystère de la vie chrétienne ou de la vie tout court. Quand il faut reprendre son bâton de pèlerin, il y a ça qui est en cause.
Justement, qu'est-ce que vous retenez de ce temps passé avec le peuple de Dieu dans l'Ariège ? Est-ce que vous avez des gros regrets de choses que vous n'avez pas accomplies ou des choses que vous avez accomplies ?
Alors oui, c'est souvent un peu sur les mêmes chantiers qu'il y a à la fois de la satisfaction et puis du sentiment d'inachevé. Si je prends un exemple, par exemple la question des petites communautés fraternelles de proximité, qui nous semble utile aujourd'hui parce qu'on parle dans notre temps, dans notre époque, et à juste titre d'une proximité qu'il faut retrouver parce qu'on a éloigné tous les centres de vie et de décision du quotidien, de la vie des gens. Donc, autrefois, ceux qui tenaient la proximité dans des diocèses comme celui de Pamiers, l'Ariège, c'était des prêtres, parce qu'il y avait à peu près des prêtres dans chaque village, parfois plusieurs, même dans chaque hameau. Et aujourd'hui, les prêtres sont moins nombreux et ne sont plus en capacité d'assurer cette proximité. Donc, on invite les chrétiens baptisés à vivre là où ils sont, dans des petites fraternités qui se retrouvent autour de la parole, qui donnent une sorte de visage au Christ et à son Église. Et donc, notre objectif, c'était à terme, alors on n'avait pas défini le terme, mais on avait mis une échéance de 5 ans. On aurait voulu avoir en Ariège à peu près autant de communautés de proximité que de villages, à peu près 350. Alors, on n'est pas arrivé à cela. Mais il existe aujourd'hui environ 50 à 60 communautés, petites fraternités de proximité. Et ça fait notre joie parce qu'on pense vraiment que l'avenir est là, dans une vraie responsabilité assumée au titre du baptême et accompagnée par des prêtres qui sont plus itinérants. Donc on a creusé ce sillon-là. On a commencé à le creuser, mais il y a un sentiment d'inachevé parce que on est au début de cette dynamique. Donc voilà un exemple de choses qui sont à la fois réalisées et encore à venir.
C'est le gros dossier que vous passerez à votre successeur, dont vous connaissez peut-être le nom.
Alors non, je ne connais pas le nom de mon successeur. Je pense qu'il n'est pas encore non seulement désigné, mais ni même discerné encore. Parce que pour lancer une enquête, quand il y a un siège vacant, le nonce lance une enquête pour savoir quel est le profil d'évêque qui pourrait correspondre à ce diocèse. Mais là, comme le diocèse n'était pas vacant, il n'a pas pu lancer cette enquête parce que sinon, ça aurait été une manière de dire, l'évêque de Pamiers est déjà nommé ailleurs. Donc, non, je ne connais pas le successeur et peut-être qu'on me demandera mon avis sur un profil qui pourrait correspondre à ce diocèse. Mais en tout cas, cette question-là d'une présence d'église au plus proche des gens, ce sera fatalement un dossier important pour mon successeur, quel qu'il soit. Parce que c'est un défi, on voit bien dans d'autres diocèses. Je regardais le diocèse de Grenoble, ils se sont saisis aussi de cette question, parce que on est sur une autre échelle, mais finalement ce sont les mêmes problématiques qui ressurgissent. Donc cette question de la proximité, elle ressurgit partout. Bordeaux, on a beaucoup travaillé en lien avec Bordeaux pour réfléchir à ces questions de fraternité, de proximité. Donc beaucoup de diocèses en France se penchent là-dessus, donc on est vraiment dans des défis communs pour l'ensemble des évêques de France.
C'est ma dernière question. Vous avez beaucoup travaillé sur cet aspect de proximité, mais d'humanisme aussi. J'ai ressenti ça tout le temps que vous avez passé dans le département de l'Ariège, quand je discute avec des personnes qui sont autour de vous.
C'est vrai que dans ma manière déjà d'être un homme, d'être un chrétien, puis dans ma manière d'être prêtre quand j'étais en paroisse, ça s'est prolongé comme évêque. J'ai évidemment des contacts prioritaires avec ma famille, donc l'église locale, catholique, et en même temps, moi j'ai besoin d'être en contact avec toutes sortes de gens, avec la société civile, quelle que soit leur appartenance religieuse et idéologique, et c'est vrai que j'ai pas mal creusé ce sillon-là, parce que moi j'en ai besoin pour vivre dans ma nature, mais je crois que l'église, c'est en tout cas ce à quoi nous appelle très fortement notre Église depuis le Concile Vatican II particulièrement, mais depuis les origines, elle n'est pas faite pour elle-même comme une institution qui chercherait à se préserver, à se protéger, mais elle est faite pour le monde. Donc ce dialogue avec toutes les composantes de la société civile, j'ai trouvé toujours que c'était important. Je prendrai un seul exemple, j'avais été invité à l'Université Populaire de Foix, qui est vraiment, c'est pas un univers catholique, c'est certains pourraient dire c'est même un peu le contraire, mais ils avaient ouvert une réflexion interreligieuse, et donc en invitant une soirée quelqu'un représentant l'islam, une autre soirée quelqu'un représentant le judaïsme, et puis moi-même pour parler du christianisme. Et donc là je parlais face à un panel de gens qui sont absolument jamais à l'église, la plupart d'entre eux, mais qui, à un certain moment, pouvaient entendre la parole d'un catholique affiché, de l'évêque. Leur parlant, j'avais choisi comme thème « Hors de l'Église, point de salut ». Et disant, mais une phrase comme celle-là, est-ce que ça veut dire que on considère que si on n'est pas croyant, ben, on n'est pas un homme respectable? Comment on en fait l'interprétation de cette phrase-là pour qu'elle ait du sens aujourd'hui et qu'elle ne soit pas absolument inacceptable? C'était vraiment très intéressant, y compris en parlant avec des professeurs de philosophie, là, absolument athées, mais en me disant, oui, je comprends mieux ce que vous voulez dire quand vous parlez de dialogue pour vous, catholiques. Je comprends bien la vision que vous avez de l'Église qui est bien plus large que ce qu'on appelle l'Église visible, au sens des pratiquants de chaque dimanche, tous ceux et celles qui sont travaillés par le meilleur, par l'Esprit du Seigneur, par la recherche de la vérité, de la bonté, de la beauté. Voilà, donc c'est un axe fort de ma manière d'être chrétien et donc d'être évêque.
Monseigneur Echen, je vous remercie pour ce témoignage. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation.